Bonjour à tous et à toutes et un grand merci d'être venus si nombreux pour participer à cette rencontre autour d'Ayerdal qui est un hommage aujourd'hui avant tout à sa littérature, même si évidemment on ne peut pas séparer, surtout dans le cas d'Ayal, on ne peut pas séparer ce qui sont ses livres et ce qui sont sa personnalité. Et demain par contre je vous convie, si vous n'avez pas eu votre petit carton d'invitation, il y a aussi le public qui n'a peut-être pas eu ses invitations, il est évidemment convié demain à 18h30. On se retrouve à l'accueil, pour faire un petit hommage, cette fois-ci un peu institutionnel, de la ville qui y tenait, à notre ami Ayerdal. La première chose que je voudrais dire, c'est que je remercie d'abord tous les intervenants ici présents pour avoir accepté de répondre à mon invitation, et tout particulièrement évidemment Sarah. Quand on pense à Ayerdal, on pense d'abord à la science-fiction. Même si on le verra tout à l'heure, la fin de sa carrière, c'est le thriller. Et comme je ne savais pas très bien comment commencer cette table ronde, je me suis dit, on va laisser parler quelqu'un d'autre. Et j'ai donc décidé de donner la parole par un texte qui date déjà. C'était dans Galaxy numéro 3, une revue de science-fiction que j'ai eu le plaisir de diriger avec quelques amis. Et c'est Jacques Baudou qui s'exprime et qui parle de Ayerdal, l'écrivain qu'il a découvert et qui connaissait moins à l'époque, évidemment, qu'il ne l'a connu après. Il est bien, il est juste que les responsables de Galaxy aient choisi pour leur premier dossier consacré à un auteur français de rendre hommage à Ayerdal. Celui-ci incarne en effet de façon très emblématique l'actuel renouveau de la science-fiction française. Car depuis quelques années, n'en déplaise à certains vieux fans obtus, la science-fiction française s'est remise en marche, ainsi que le prouve aujourd'hui avec quelque éclat l'anthologie Genèse, conçue par Ayerdal pour les éditions J'ai lu et qui regroupe la plupart des auteurs impliqués dans ce mouvement de résurrection. La science-fiction française est enfin sortie de la léthargie où l'avaient plongé trop longtemps les échecs publics consécutifs de la pesante vague post-68arde et de l'évanescente vaguelette formaliste qui, en réaction, lui succéda. Et le tout premier signe de réveil de la belle endormie a été indéniablement la parution en 1990 des 4 volumes de La Bohème est livrée. Il s'agissait en fait d'un gros roman de près de 800 pages, le premier écrit par l'auteur. Après un travail complémentaire d'Ayerdal, puisque c'était donc 4 volumes, il a été repris dans le format standard de la collection du Fleuve Noir. Agrémenté, d'ailleurs, de fort belles illustrations de couverture signées Gilles Francescano. Le thème initial du roman n'était rien moins que celui de la position de l'artiste dans la société. L'art doit-il être subversif ou tout du moins novateur, sur le fond, sur la forme ou sur les deux? Ou doit-il être cette pratique consensuelle dont se réclament tous les académismes et qu'il vint, le personnage central du roman, pourfend dans les premières pages du roman? Vous vendez du rêve tout rose et du cauchemar tout gris, du romantisme démagogique et manichéen, du passé très beau et du présent facile, aucun ailleurs ou avenir qui soit autre chose que de l'exotisme égocentrique. Mais Jacques Baudou avait tout compris de ce qu'était l'écrivain Ayerdal, et dans ses lignes transparaît aussi la personnalité d'Ayerdal. Je voudrais d'abord faire rebondir Marion Mazorik, son éditrice. Vous connaissez bien l'anthologie Genèse,
Marion. Oui, ça a été un projet en fait quasi immédiat, enfin assez rapide dès qu'on s'est rencontrés, enfin après qu'on se soit rencontrés, que je l'ai lu, etc. chez J'ai lu, donc c'était dans les années 90, juste après la parution de La Bohème est livrée, justement en 4 volumes. Et Ayerdal arrivait avec le manuscrit de Sexomorphose. Moi, je l'ai découvert par Jacques Baudou et La Bohème est livrée. Et j'ai été très impressionnée par la même chose. Et Jacques, qui est dans la salle et qui est celui qui l'a découvert, donc ce serait. Enfin, je pense que lui aussi peut amener beaucoup de choses à cette réflexion autour d'Ayerdal. Mais enfin, il a prononcé le mot, c'était une littérature libératrice, assez subversive, pas académique. Et ce dont il m'a fait prendre conscience, c'est qu'en fait, et en même temps, ça se voyait, parce que le Fleuve Noir avait cette politique de recruter des jeunes auteurs et puis de leur demander des contraintes formelles très fortes. Mais on avait aussi Roland Wagner, dans la même période, qui commençait à écrire au Fleuve Noir. Et on voyait cette nouvelle génération dont parle Jacques réémerger. Et Ayerdal, lui, ça a toujours été, mais comme on le sait, non seulement l'écrivain qu'il est, qui découvrait les choses pour lui et qui travaillait avec une grande exigence pour lui-même, mais il s'est toujours intéressé, il s'est toujours nourri des autres, il a toujours été ouvert vers les autres. Donc le fait qu'il était très fier de ne pas être tout seul, très généreux et puis très militant comme on le connaît, donc il a joué le rôle de héros, de rassembleur, de chef de Lydia, et d'où Genèse. Et c'était totalement légitime et évident qu'il avait... que c'était lui qui pouvait rassembler cette anthologie. Le choix des textes, tout le monde est dans cette anthologie, hein. Il y a Jean-Marc Ligny, on se retrouve tous aujourd'hui, c'est assez émouvant parce que la suite a prouvé que c'était que des écrivains qui ont eu un destin et qui ont marqué quelque chose dans l'essai française. Et Yale, il était naturellement en position d'entraîneur, on va dire, au sens de l'énergie qui entraîne et qui fait voir, quoi. Je ne sais pas si je rebondis bien.
Non, je crois que ça, pour les plus jeunes lecteurs, ça rappelle comment les choses ont commencé. Yale a joué un rôle en effet de rassembleur et puis aussi un authentique écrivain, une voix personnelle. Gilles Francescano, on évoquait juste avant que vous arriviez justement la rencontre, c'était un texte de Jacques Baudou qu'on lisait, on évoquait très vite votre admiration pour l'écrivain et le fait que vous ayez envie de l'illustrer.
Mais en fait, alors je me souviens très bien effectivement du texte de Jacques, puisque Ayerdal l'avait encadré dans son salon, donc je me souviens bien de ce texte qui avait été un gros déclencheur aussi pour la motivation aussi de Yale. De mon côté, moi, ça a été la découverte d'un univers graphique. Alors, comme disait Marion, sur l'aspect subversif, effectivement, sur cette écriture, je dirais presque avec ce sens du merveilleux que je connaissais chez certains auteurs américains, mais qu'on retrouvait très très peu, en fait. Alors, désolé pour les autres auteurs, mais que cette matière que je retrouvais assez peu, moi, à l'époque, chez les autres auteurs français que j'illustrais. Et effectivement, l'arrivée de, je dirais, d'Ayerdal, moi, dans mon carton à dessin, a été vraiment déclencheur pour mon travail personnel, même pour le reste en fait, mais ensuite effectivement pour notre binôme en fait qui a réussi tant bien que mal à survivre et à s'imposer sur d'autres textes. Et moi, c'était effectivement avec la Bohème est livrée, enfin qui reste moi pour une magnifique un magnifique ode à la jeunesse, enfin je dirais presque 30 ans après, à Nuit debout. Et donc, voilà, c'était le début de la carrière politique d'Ayerdal, quoi, en fait.
Il était un éveilleur, il a toujours été un éveilleur, Ayerdal, pour tout le monde. Même quand lui pouvait douter ou ne pas voir les choses clairement sur ses textes, parce que Dieu sait que son exigence l'a conduit à... Des fois la gestation de livres a pu être longue, c'est quelqu'un qui pouvait douter pour lui, mais par contre il a toujours eu cet effet de rassembleur et d'éveilleur, et on se rend compte évidemment quand les gens sont plus là à quel point est-ce qu'il a fait l'histoire quelque part. C'est-à-dire que je pense que culturellement, ce qui émergeait dans le travail de gens comme Gilles ou comme Ayerdal et toute cette génération qui montait, qui était donc la génération des gens qui sont en gros nés en 60, qui avaient encore les pieds dans la mémoire ancienne de la SF, qui était nourrie de SF américaine, mais rien n'était inventé du point de vue de la France, et la littérature française dans son entier, elle sortait pas bien de l'académisme en fait, ou alors de voies plus avant-gardistes, mais qui n'avaient rien à voir avec la prospective imaginaire. Et c'est cette génération-là qui a été la première à abolir toutes les frontières, à vouloir faire du roman et à accueillir très bien, d'ailleurs notre rencontre elle s'est faite sur le terrain de la littérature, à accueillir très bien l'exigence littéraire dans le travail des écrivains de l'imaginaire, ce que jusqu'à présent n'était jamais mis en question, parce qu'on ne demandait pas, on considérait que la SF était un sous-genre. Soit il y avait des Américains, soit des mauvais Français, soit des Français illisibles et opaques. Et donc il n'y avait pas de... au Fleuve Noir, on demandait aux auteurs de SF de saucissonner les œuvres qui rentrent dans des formats stricts. Et du coup, ne pesait pas sur les auteurs de SF ni d'exigences littéraires, ni d'ambition. Et Heyerdahl, il a été le catalyseur de tout ça. Je pense qu'enfin, ce serait intéressant de donner la parole à tous les écrivains qui sont dans la salle de sa génération. Mais je crois qu'il a été ce feu aux poudres, quoi, un petit peu pour nous tous.
Oui, une toute petite réflexion par rapport aux auteurs du Fleuve Noir, en tous les cas de l'époque, c'est que Yale n'en faisait pas partie, en fait. Il est arrivé de, je dirais presque de l'étranger ou de l'extérieur, en tous les cas, puisqu'il est à Lyon. Et c'est vrai que les auteurs du Fleuve étaient... Se côtoyer souvent. Enfin, il y avait quand même cet esprit fandom que l'on connaît aujourd'hui, mais qui était quand même aussi très présent à l'époque. Et Heyerdahl est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe pour certains, parce que je pense qu'il n'a pas toujours été très bien accueilli au début.
Au contraire, il a même parfois été détesté. Il a fallu à un moment donné l'intervention de Mandy lors d'un repas pour dire à tous ses auteurs, « Eh oh, il y a le petit nouveau qui est là, il fait des trucs super, vous êtes tous cons de ne pas lui parler, vous êtes tous cons, accueillez-le, parlez-lui, vous découvrirez quelqu'un qui est vraiment intéressant. »
Oui, il y avait sans critiquer, mais une espèce d'auto-congratulation entre certains auteurs qui fait que quand les textes de Heyerdahl sont arrivés, ça a été vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Au-delà du texte, quoi, puisque par son attitude, par le fait que personne ne le connaissait.
Il a vraiment fallu attendre Genèse pour qu'il se retrouve vraiment rassembleur des autres auteurs.
L'air de rien, ça fait quand même, quand on y est, c'est quand même plusieurs années, à peu près une petite dizaine, plus de 5 ans. Donc c'est long quand on le vit, rétrospectivement, c'est pas beaucoup, mais je dirais que le milieu de la SF, comme tous les fandoms un peu fermés, à cette époque-là, il était un peu réticent à toutes les nouvelles arrivées, parce que Bordage raconterait aussi, je ne sais pas s'il est là, Pierre, mais...
Pierre a eu la même expérience.
Exactement, lui aussi, il a vécu ses premières années dans la SF, il ne se sentait pas très accueilli, mais parce qu'il faisait des choses différentes.
Ce n'est plus le cas, je vous rassure, aujourd'hui, on le sent vraiment ici. Je voulais lire un extrait, c'est un des premiers romans de Yale. C'est 1992, j'ai recherché le copyright tout à l'heure parce que je ne me souvenais plus exactement de l'année. Et je vais vous lire, non pas le début, mais le très court chapitre 2, vous allez tout de suite voir, et je ferai ensuite référence à un saut dans le temps à l'an 2000, vous verrez pourquoi. Et aussi à l'actualité à partir de là. J'avais vraiment toutes les raisons de prendre mon enlèvement au sérieux, mais je n'y suis pas parvenu. Que cela arrive à moi était absurde. Je travaillais au siège de l'OMS, à Genève, tard, parce que j'ai toujours aimé travailler de nuit, quand les couloirs, les bureaux sont vides, que personne ne peut plus perturber ma solitude. À moins d'une poignée d'heures et de l'aube, j'ai rejoint le parking souterrain et j'ai quitté l'immeuble. L'avenue était moins déserte que d'habitude, j'ai immédiatement remarqué une limousine derrière moi, puis une autre devant, celle de devant roulait si mal que je n'ai pas pu la doubler immédiatement. Au moment où j'accélérais pour la dépasser, elle a planté les freins et j'ai embouti son pare-choc. Un accident à Genève dans le quartier administratif. Je suis descendu de ma voiture, prêt à ricaner, et j'ai béé à m'en décrocher la mâchoire face au pistolet mitrailleur qu'un type masqué braquait sur moi. L'autre véhicule a fait hurler ses freins, et deux lascars, tout aussi masqués, ont s'en sorti plus vite qu'au cinéma. Le premier a bondi dans ma voiture, l'autre m'a collé un revolver sous le nez et m'a attrapé par le col pour me tirer vers la seconde limousine. Mais ai-je bêlé, ce qui m'a valu une première beigne indélicatement donnée que le canon d'un revolver. Ensuite, le type m'a jeté dans la voiture, s'y est engouffré derrière moi, et les trois véhicules ont redémarré. Au pire, la scène avait duré 5 secondes. J'ai juste pu voir que nous n'empruntions pas la même route que les autres. Puis il m'a couché de force entre les banquettes et m'a assené un second coup de revolver alors que je tentais stupidement de résister. Celui-ci a failli m'arracher l'oreille droite. Le premier m'avait ouvert la pommette gauche. J'étais plus ébahi, plus hébété, plus endolori qu'effrayé, et je me demandais ce qu'il ferait de moi quand il s'apercevrait de leur méprise, car, sans aucun doute, c'était une méprise. Ce voyage n'a pas été très long, et je l'ai fini la tête sous une cagoule opaque. Ensuite, j'ai passé 4 jours dans une cave, avec un matelas et un robinet d'eau froide. On m'a nourri, c'est tout ce que j'ai eu, des relations avec mes ravisseurs. Je n'ai jamais vu leur visage, je n'ai jamais eu aucune idée de leur nombre exact, et chaque fois que je posais une question, je prenais une claque. Puis j'ai eu droit à un deuxième transport en voiture, qui s'est manifestement achevé sur des chemins non goudronnés. Cette fois, avant de m'enfermer dans une autre cave, on m'a délesté de tout ce que je possédais, jusqu'aux vêtements. Sans montre, je ne peux être catégorique, mais j'ai dû attendre 2 journées dans le noir, sans boire ni manger, avant qu'on me place sur perfusion. Mon état ne le justifiait pas, on me droguait. C'est sur cette pensée inutile que j'ai perdu conscience. cet humanitaire enlevé, qui ne comprend pas pourquoi, confronté à des terroristes, va très vite découvrir que quelque part, les gens qui l'ont enlevé lui reprochent d'être complice d'une machine à exploiter les peuples ex-colonisés ou toujours colonisés. Et c'est donc Demain une oasis, l'itinéraire d'un humanitaire qui va en tout cas s'interroger sur le rôle qu'il joue dans la machine à dominer un certain nombre de peuples. Je trouve ça intéressant parce qu'en traitant ce thème, on voit à la fois l'engagement de Yale, et ça renvoie évidemment à son passé de travailleur social, mais aussi, me semble-t-il, ça renvoie à ses interrogations sur les rapports entre le Nord et le Sud, et sur l'injustice qui peut être faite au peuple du Sud. Et c'est, quelque sorte, une façon d'anticiper, c'est ça le rôle d'un artiste, je crois, d'anticiper la façon dont on sent, quand on est un artiste authentique, l'air du temps. Et quelque part, derrière ça, il y a une prescience du terrorisme et de ses causes, surtout. Et je renvoie ensuite à Libération. Pour l'an 2000, Libération a demandé à des écrivains, dont à Yerdal, d'écrire une nouvelle. Et ça a partagé en deux la rédaction, qui était plus ouverte qu'elle n'est aujourd'hui, qui a hésité à publier le texte. Parce que Yal avait osé écrire au jeu, comme s'il était lui-même le personnage, mais c'était évidemment pas ça. Il avait écrit « Je » pour raconter l'histoire d'un sans-papier expulsé et qui revenait en France, justement au nom de cette oppression, pour y mettre une bombe.
Jusqu'ici, tout va bien.
Absolument, jusqu'ici, tout va bien. Et quand on réfléchit à la situation du monde et de notre pays, on se dit qu'un artiste comme Heyerdahl a mieux su percevoir les racines du terrorisme que tant de dirigeants incapables d'en comprendre les ressorts. Et là aussi, le malentendu entre Heyerdahl et non pas son lectorat, qui lui l'a parfaitement compris, mais quelques élites qui ne l'appréciaient pas, ce qui n'était pas le cas ici, tout le monde l'appréciait, même si on ne partageait pas tous ses idées, eh bien Heyerdahl s'est trouvé, à mon avis, il me dira si Sarah, tu me dément, s'est trouvé refléter la façon dont un nombre d'artistes sentaient comment le monde venait et pas nécessairement de façon positive. Je ne sais pas si Sarah, oui, j'ai exposé un peu comment on voit les choses.
Tout à fait, mais c'était aussi la réflexion d'un auteur de SF sur le présent et sur sa manière de répéter le passé. Et c'était la grande peur de Yale et de voir systématiquement le passé se répéter, les mêmes événements, les mêmes causes. C'est pour ça qu'il attendait avec impatience de pouvoir écrire ce roman qu'il rêvait d'écrire depuis ses tout débuts, son utopie, qu'il avait préparée avec une douzaine d'amis d'horizons différents pour montrer comment pourrait être le monde après une révolution.
La générosité et l'ouverture d'esprit, c'est aussi, je pense, quelque chose qui caractérisait et qui caractérise ce qui s'exprime dans les romans d'Heyerdahl. Je pense évidemment à l'Histrion, à Sexomorphose, évidemment. Pour vous en dire peu de choses, la quatrième de couverture. Emeline, avec un E entre parenthèses, est sexomorphe, capable de changer de sexe à volonté. Dans les délicats équilibres des pouvoirs de la Fédération homéocrate, elle a été choisie pour jouer le rôle du trublion, de l'empêcheur de penser en rond, du révélateur de conflits, mais elle, c'est E-L, hein, je précise, est rebelle par essence et recherche son créateur pour se libérer d'un destin qui n'est peut-être que le fruit d'une programmation. Et l'éditeur conclut, Marion, un magnifique space opéra, précurseur, visionnaire et joyeux. Choisir un personnage central transgenre, à l'époque en France, c'était pas la mode. Et là aussi, il a eu peur de rien. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire, son métier d'écrivain. Et c'est vrai que c'est le premier, à ma connaissance, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé d'autres, premier personnage transgenre de toute l'histoire de la science-fiction française. Chapeau, monsieur Heyerdahl. Et le plus frappant, c'est que ça n'a provoqué aucun remous, aucun problème, finalement.
Et c'était aussi lui, l'histrion, le trublion, celui qui jetait des pavés dans la mare, etc. Et il y a beaucoup d'Heyerdahl dans le personnage d'Emeline. Et sa fascination pour les femmes, pour les hommes, et c'est ses envies parfois d'être les deux à la fois.
C'est l'homme, moi je pense que c'est l'écrivain qui a le mieux et le plus tôt choisit des femmes, et pas n'importe quelle femme, des femmes complexes, des femmes féministes, des femmes qui aiment aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas des caricatures de femmes, genre la combattante et elle n'est rien d'autre, ou la femme d'affaires, ou la dirigeante. Il faut lire Balade Coréale pour voir la finesse de l'approche de trois femmes par rapport au pouvoir d'une colonie, qui est aussi un des grands thèmes d'Ayerdal. Ce qui est extraordinaire dans la façon dont il est précurseur, donc tu as parlé de terrorisme, effectivement on relit De Marine Oasis. Alors De Marine Oasis, vous voyez, il est sorti, c'est son premier livre, en 82.
Donc 92.
92, pardon, 92. Et oui, bah non, ça fait quand même pas mal de temps. Oui, en 82, on était beaucoup plus petits. Donc il avait quand même une trentaine d'années. Hein. Donc il y a eu un temps de gestation. Mais enfin, c'est donc il y a plus de 30 ans. Et tous les ingrédients de Demain une oasis, c'est-à-dire le réchauffement climatique, l'assèchement de l'Afrique, le déséquilibre nord-sud et les questions politiques et leur incapacité à être résolues par les voies de ce que, je vais faire du Ayerdal, ce qu'on appelle démocratie nous présente comme système politique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle démocratie est un système qui permet quand même à la moitié du monde de vivre sur le dos de l'autre moitié qui est en train de crever. Et il analyse ça, et ce qui est très beau, c'est que politiquement, la leçon de Demain à une oasis, ce n'est pas une leçon d'extrémiste qui ne réfléchit pas, c'est tout le contraire. Et tous ces livres, quand ils mettent une question, celle de l'artiste dans La Bohème est livrée, du rapport de l'artiste à son temps, l'artiste à la liberté, l'artiste comme éveilleur de conscience, c'est lui qui cite toujours la phrase de Sartre, les artistes nous sont donnés, pour que justement nul ne puisse se dire ignorant du monde. Et c'était un de ses leitmotifs. Donc dans tous les domaines à chaque fois, et puis là la sexomorphie, il a un regard d'une... C'est pas seulement qu'il est 20 ans ou 30 ans en avance sur les questions que vont se poser la société. C'est que la façon dont il les pose, en plus, ne sont jamais dogmatiques. Regardez par l'heure cette fin qui a fait couler tellement d'encre, parce qu'effectivement, est-ce que c'est une fin ? Enfin, c'est une fin sombre. Et en même temps, par l'heure laisse la révolution à faire aux autres. Pour Yale, c'est une fin bien plus positive. Vous connaissez son rapport au dogmatisme et son rapport surtout à la captation du pouvoir. Donc tous ces personnages restent des troublions, et l'installation de la critique politique qu'il fait est une critique qui ne nie pas l'exercice du pouvoir, voire l'histrion, le rôle de l'histrion par rapport aux dirigeants du monde homéocrate, en l'occurrence, qui est plutôt progressiste, enfin humaniste, dans le discours, en tout cas dans la volonté. Il n'est jamais cadré, et le lecteur à la fin... Il n'est pas placé face à un monde manichéen ou des idées manichéennes. Il doit se faire son propre chemin lui-même, prendre ses propres décisions et savoir que leurs résultats seront toujours complexes et qu'on ne libère pas le monde parce qu'on le souhaite ou qu'on ne le libère pas par les armes. Donc il a une finesse d'analyse politique qui aujourd'hui est la seule manière politique, à mon avis, de penser. C'est-à-dire elle n'est pas partisane ou orientée. Et il nous laisse toujours... C'est la même chose dans ce qu'est... Anne dans Transparence, dans les thrillers les plus contemporains où il regarde le monde, et alors évidemment dans Rainbow Warrior, il n'y a pas de leçon politique, sinon que le monde est de notre responsabilité à tous. Et ça, on pouvait trouver dans la discussion des fois Ayerdal entier, voire excessif, voire quelquefois carrément, enfin bon, on pouvait se bastonner, discuter avec beaucoup d'énergie, et Yale, il pouvait être excessif dans la parole, mais dans ses livres, il est d'une grandeur, et il nous renvoie toujours à notre liberté d'être et d'agir, et jamais à un dogme. Mais ça, c'est formidable. Ça aussi, c'est très précurseur. Je
partage tout à fait. Oui.
Une chose. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer nos mondes et que nul ne puisse s'en dire innocent. Celle-là, la situation de Sartre, qui était la citation préférée d'Yale.
Absolument. Je voulais maintenant passer la parole à Stéphane Plateau, qui, lui, fait partie de la nouvelle génération des auteurs. Et justement, ce que je voudrais d'abord savoir, on parlera après du rôle de Yale, peut-être vers la fin de cet entretien, vis-à-vis des jeunes auteurs, mais là, ce que je voudrais savoir, c'est le regard d'un jeune écrivain sur l'écrivain Yale. Pas sur l'homme, là, vraiment sur l'écrivain.
Sur l'écrivain. Alors, j'ai énormément à dire sur l'homme. L'écrivain, je l'ai découvert après avoir franchi sa porte, puisque quand je suis allé chez lui, il avait lu mon manuscrit. Il m'avait invité à manger avec Sarah. C'était absolument formidable comme accueil dans le monde des écrivains. Je n'avais encore rien lu de lui. Et puis, je lui ai demandé quel livre je devais lire en premier. Et évidemment, c'était Parleur. C'était ce livre qui était presque de la fantasy, même s'il n'aurait pas apprécié sans doute le terme à l'époque, parce que c'était un monde imaginaire, mais dans lequel il traitait finalement de lutte sociale. Et c'était une claque littéraire. Maintenant, je suis en train de lire Demain en Oasis et je reprends une claque littéraire parce que son style est incroyablement alerte. C'est très vif, c'est habité en permanence de cette autodérision que le personnage porte, enfin, cette dérision qu'il porte sur lui et sur le monde qui l'entoure. On le sent presque à chaque phrase. C'est vraiment très beau à lire. Et puis il y a cette rébellion, ce sens de l'injustice qui l'habite tout le temps et qui est quelque chose qu'on ne trouve pas chez énormément d'auteurs. Il y a un des points sur lequel je me suis senti tout de suite en résonance avec lui, c'est je suis comme lui travailleur social, comme il l'a été. Et ça me donne... J'avais déjà envie de parler de l'injustice avant de le rencontrer. Le fait de l'avoir rencontré a doublé cette envie. Le fait qu'il ait disparu l'a triplé.
Je veux juste, puisqu'on parlait de Parleur, raconter une toute petite anecdote. C'est qu'au départ, Parleur était vraiment un livre de fantasy, avec de la magie, avec des créatures surnaturelles et des choses comme ça. Et la première chose que Yael a faite quand il a eu fini le premier jet, à part réécrire je ne sais plus combien de fois le premier chapitre, ça a été d'éliminer systématiquement tout ce qui pouvait être du surnaturel, de la fantasy, pour faire un roman qui soit totalement atypique, qui soit à la fois une forme de fantasy, une forme de science-fiction et une forme de roman, de littérature générale en fait, ou de roman historique légèrement décalé.
Heyerdahl est donc un personnage, une personne, un écrivain tout à fait fascinant, engagé dans le monde, dans ses romans, mais attention, et ça renvoie à l'article de Jacques Baudou, que j'ai cité tout à l'heure, au propos de Jacques Baudou, je crois que c'était dans Le Monde d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, et en tout cas, où c'était, non, c'était dans la revue simplement, en Galaxie. Ce qui me paraît frappant, c'est la façon dont, justement, il était un écrivain militant, mais dont les textes n'étaient pas des textes militants. Je veux dire par là, au mauvais sens du terme, n'étaient pas des textes discoureurs sur ces questions-là. C'était des textes qui racontaient des histoires. Et c'est en ça qu'il rompait avec ce qu'on appelait la science-fiction française politique des années 68, que critiquait à juste titre Jacques Baudou. C'était une référence à cette catastrophe littéraire et y compris politique qu'a été ce courant-là des années 60 et 70. Justement, parce que Heyerdahl apparemment partageait ce type d'idées qu'on aurait retrouvées à cette époque, mais en fait, ses romans, même s'il vibrait de sa passion contenue, même s'il vibrait de son engagement, c'était des romans qui racontaient des histoires. C'était des romans qui parlaient d'aujourd'hui en nous envoyant ailleurs. C'était des romans qui décrivaient des mondes. C'était des romans d'une incroyable richesse, d'une incroyable écriture et d'une incroyable générosité. Voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Yael, je leur dirais vraiment, allez voir ces romans, ces séries de l'homéocratie. C'est vraiment des textes. C'est des histoires qu'on ne lâche pas, ce sont des histoires passionnantes. C'est un vrai romancier. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Ne le ratez pas, ces romans de science-fiction. Et vous qui êtes venu peut-être plus tard à Heyerdahl et qui avez découvert ces nouveaux romans dont je vais parler avec nos amis maintenant, ces thrillers, l'écrivain est aussi brillant dans les deux domaines. Il est différent, mais il est tout aussi brillant. Je voudrais lire un extrait de Transparence, qui a été sa grande entrée dans le thriller et qui a été un joli succès. Et je ne vais pas prendre un passage où il se passe des scènes d'action, il y en a beaucoup, mais je voudrais prendre le début du roman. Deux pages, pour vous donner, je crois qu'un début de roman comme ça, qui pourrait d'ailleurs être un début de film.
Mais c'était très important pour Yael. La partie la plus importante d'un roman, c'était le premier chapitre. Il fallait qu'il soit parfait. Il était capable de le réécrire 10, 20, 30 fois
Il a
plus.
Fait 72 versions.
Ouais.
Je me souviens qu'il est venu un jour à la maison, il en était à sa 72e version.
C'est pour Parleur.
Et Grosban de l'intro de Parleur.
Voilà. Et c'était vraiment la chose primordiale, réussir le premier chapitre, réussir la première phrase, pour que le lecteur ne puisse pas lâcher le bouquin.
Deux pages. Et vous allez voir, c'est grandiose. Transparence. 31 octobre 1997. Une foule en mouvement entretient d'étranges rapports avec la mécanique des fluides, du moins quand on la considère comme la résultante de propriétés homogènes. Densité, vitesse, vecteur, miction. Tant qu'on la regarde de haut en plissant un peu les yeux pour en rendre les détails flous, elle tient tout entière dans une batterie de modèles mathématiques. C'est un petit peu plus compliqué quand on est dedans, parce que chaque entité est une semence potentielle de chaos. Un type s'arrête brutalement en se frappant le front, un autre perd le fil de sa trajectoire en portant son mobile à l'oreille, quelqu'un s'écroule frappé par une crise cardiaque ou l'indiscipline d'un lacet, une nana bifurque à angle droit vers une boutique, un autre aile une amie perdue de vue depuis 10 minutes ou 10 ans, une poignée de flux perdent de leur rigueur. Comme l'homme est un animal plus ou moins intelligent, chacun corrige sa course en conséquence et surtout en tenant compte des opportunités qu'offre la rupture d'écoulement. Changer de trottoir, rajuster son pantalon, faire une halte au kiosque à journaux, se glisser dans un flot plus prometteur, slalomer entre deux hésitants, buter contre une personne beaucoup plus attrayante qu'un lampadaire. Les graines de chaos germent, l'effet papillon est en branle. Deux passages piétons en aval, Harry rencontre Sally. 23 ans plus tard, leur fils aîné donne la victoire aux Lakers en marquant un panier à 3 points dans la dernière seconde de la finale de la NBA. La face du monde n'en est pas changée. Une chance, car ce n'est pas toujours le cas. Les nageurs de foule se contrefichent de la mécanique des fluides, du chaos et de l'effet papillon. Il est même peu probable que plus d'un seul d'entre eux, une seule, ait conscience de pratiquer une discipline s'apparentant de façon très métaphorique à la natation. Ils profitent des courants, ils jouent avec les ondes, ils utilisent les sillages, ils surfent sur les vagues, ils s'immergent, ils cherchent le meilleur profil de pénétration. Mais ils ne savent pas qu'ils exploitent les principes de l'agora dynamique. Au mieux, ils appellent ça l'instinct, au pire l'habitude. Dans tous les cas, ils progressent au sein d'un fluide qu'ils perturbent le moins possible, ne serait-ce que pour limiter les forces de friction. C'est d'ailleurs à ce talent que se mesurent les qualités d'un nageur de foule. Quand il est impossible de remarquer son passage, n'en détecter ensuite la moindre trace. Car il existe des pisteurs de foule capables de remonter n'importe quelle altération du flux pour tracer un itinéraire individuel, et eux savent ce qu'ils font. Ils ont généralement reçu une formation, ils maîtrisent la théorie et ce sont d'excellents nageurs. S'il est préférable de ne pas leur laisser d'indices, c'est que leur instruction est souvent dispensée par les écoles de police, qu'elle est parfois très spéciale et qu'il lui arrive d'être carrément parallèle aux militaires. De plus, ils sont rarement seuls. Toutes les foules du monde sont différentes. La culture, la saison, l'événement, la topographie, des milliers de données se conjuguent partout pour l'habiller quelquefois dans chaque endroit, d'une apparence particulière à défaut d'être unique, mais les principes dynamiques en sont toujours les mêmes. Le downtown de Chicago, entre chien et loup, un soir d'Halloween entre bureaux, métro, pubs et centres commerciaux, ressemble assez peu à la Venise des déjeuners estivaux ou à Abidjan n'importe quand. Pourtant, Naïs nage avec la même aisance. Elle est attentive, bien sûr, toujours prête à se décaler, à allonger une foulée en descendant son centre de gravité, à pivoter sur un appui très léger pour se déhancher, à se glisser dans le moindre espace. Elle progresse vite, avec l'indolence des gens qui ne sont pas pressés, juste pour se sentir bien dans son élément. Voilà. C'est une ouverture de roman absolument incroyable. Et vraiment, tout le talent de Yael est là. Naïs, c'est son personnage. Il arrive dans ce roman, Heyerdahl, à nous faire aimer une tueuse apparemment psychopathe, mais où on ne repère pas la cohérence de cette apparente tueuse en série, très tardivement localisée, parce que le héros, l'héroïne en réalité, a des mobiles qu'évidemment le lecteur ignore au début du roman. Et ce passage dans le thriller, avec cet éblouissant début, c'est quelque chose qui va nous entraîner tout le long du roman, avec un personnage qui va échapper à ses poursuivants et dont on va peu à peu découvrir le passé, les motivations et peut-être l'avenir. Sarah, est-ce que dire un mot peut-être sur Transparence, parce que c'est un roman vraiment important qui marque une rupture, non pas une rupture.
Non, non, c'est vraiment un carrefour. Voilà, c'est vraiment un carrefour. C'est juste un moment où beaucoup de choses changent, un moment où il se tourne vers le thriller et où petit à petit il se rend compte que même s'il continuera à écrire des thrillers, c'est parce qu'il est un auteur de science-fiction qu'il est capable d'en écrire d'aussi bon. Qu'il est capable d'y ajouter un certain nombre d'éléments, des éléments qu'il a ajoutés ensuite dans Résurgence, dans Rainbow Warriors ou dans Bastards, qui sont des éléments parfaitement science-fictifs, que le lecteur de thriller ne verra pas forcément. Mais, et il l'a répété dans tous les festivals de polar d'ailleurs. Pourquoi j'écris ce genre de roman ? Pourquoi j'ai autant de facilité à partir dans tous les sens et dans tout le monde ? Parce que je suis un auteur de science-fiction.
Parleur. Transparence est vraiment un livre magnifique. C'est vraiment, je vois les gens qui hochent la tête, qui l'ont lu, c'est vraiment un modèle à la fois de thriller. En effet, l'aspect science-fictif, cette transparence, on voit bien d'ailleurs, hein, elle est évoquée dans le début du roman tout en subtilité, et c'est d'ailleurs tout le problème. Mais évidemment, c'est aussi un roman policier-politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui la traquent ont des raisons qui ne sont pas des raisons très avouables et qui, évidemment, renvoient aux questions du pouvoir et de la maltraitance que les pouvoirs peuvent avoir avec certains personnages. Voilà, on n'en dira pas plus, qu'il ne faut pas laisser deviner un peu l'histoire.
Mais quand même, je reviens à cette histoire de précurseur. Transparence a donné quand même deux concepts qui ont été ensuite repris, alors pas forcément parce qu'on citait Heyerdahl, mais moi je vois bien comment les choses progressent et c'est le grand cycle dans lequel les gens s'inscrivent et certains sont déclencheurs. La transparence, par exemple, l'invisibilité sociale, la transparence.
Là, je suis pas d'accord.
Sur le plan, moi je me souviens. Excuse-moi, Sarah, je vais finir ce que je dis juste pour savoir si tu es d'accord ou pas après. Sur l'invisibilité sociale, il a vraiment décidé de faire cette accroche.
SDF.
C'est la métaphore du nageur de foule pour, comme tu le disais, parler de l'invisibilité et des gens qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, il y a un moment, ce thème revient même dans le volume 2 quand l'héroïne ensuite est déguisée en SDF, c'est-à-dire qu'elle assume complètement l'invisibilité sociale. Ce qui est étonnant dans cette intro, où il y avait ce thème de l'invisibilité, et puis l'autre thème, la mécanique des foules et les nageurs de foules, c'est que les deux choses sont à un moment donné, se mettent à exister. Alors, les nageurs de foules, bon, bah, Sarah, je pense que tu vas en parler, ça existe, ça s'est mis à exister, c'est même une pratique, un sport, je ne sais pas. Et moi, je peux témoigner du fait qu'il y a exactement 7 ans, on a organisé avec la Bibliothèque nationale de France une lecture, une nuit dédiée à la littérature urbaine. Et on travaillait sur un corpus. L'idée, c'était de mélanger des textes de toutes les époques et de tous les pays. Et j'arrivais évidemment, enfin, je me souviens d'arriver à une réunion avec le prologue de Transparence, me disant, ça c'est inévitable, il faut que ce texte soit lu comme un grand sommet de la littérature urbaine. Et en fait, c'est le chef du département de littérature française qui, à cette réunion, a sorti le texte en disant on va lire ce texte qui est un chef-d'œuvre. Et je peux vous dire que d'ailleurs j'avais appelé Heyerdahl, on ne savait pas. Il sait ce texte, ce prologue, s'est transporté, a été lu, relu et connu. Et aujourd'hui, il est repris dans des manuels, il a été cité. C'est devenu un des plus beaux passages connus de la littérature française sur ce que c'est que la foule et la vision de ces nageurs de foule qui ensuite existent, mais aussi métaphore de l'invisibilité. Et sur cette façon de 10 ans avant donner des mots qui vont être repris, dans tous ces livres on le trouve. C'est par exemple des mots comme aggrave, des visions, des images, mais aussi la sexomorphie, on en a parlé, c'est le premier.
C'est néologisme, c'est aussi la façon.
Moi, je pense toujours à Lara Croft. Lara Croft est apparue dans notre univers culturel bien après Sibione. Et je ne peux pas considérer que dans le grand brassage des idées et des influences qui font avancer les œuvres collectives humaines, pour moi, c'est évident que Sibione est la première marche de cet imaginaire-là qui nous donne un accroc et qui a lieu d'ailleurs bien supérieur, et on le verra dans le dernier volume qui paraîtra un jour.
Voilà, moi, c'était par rapport à la transparence.
Oui, sur le reste, on est évidemment d'accord.
Je suis tout à fait d'accord. La transparence, et Yael tenait énormément à cela, la transparence, d'abord, c'est Christopher Priest, avec le glamour. Et puis, c'est relancé Wagner avec les futurs mystères de Paris. Et pour ça, pour ces idées-là, Yael tenait énormément à citer ces deux auteurs qui lui ont fait réfléchir la transparence. La transparence sociale qui est extrêmement forte dans l'œuvre de Roland Wagner. Et d'ailleurs, il a entre autres remercié et dédié un volume de transparence à Roland pour cela.
Mais voilà, vous voyez comme quoi les écrivains parfois renvoient les uns aux autres, et y compris au-delà des frontières, et c'est aussi une richesse quand des vrais auteurs comptent dans la littérature, et on sait qu'ils continueront à compter. J'ai là aussi très brièvement, parce qu'on avance, et après on parlera aussi du rôle qu'il a pu jouer vis-à-vis des jeunes auteurs, c'est aussi pour ça qu'on a appelé à cette table notre ami Stéphane Plateau. Très court extrait, le ton Yael. Rainbow Warriors, donc, est sorti, c'était pas calculé, c'était un peu un hasard des temps, lors des manifs pour tous opposés à l'ouverture du mariage à tous les couples. Et du coup, évidemment, le livre a pris, c'est pour ça qu'il a eu, je pense, beaucoup de médias, une résonance qu'il n'aurait pas pris, en tout cas, dans un autre moment. Et c'est vrai qu'il est aussi intéressant de le lire hors contexte polémique. Voilà. On est donc dans une réunion un peu étrange où, avec beaucoup d'humour, Yael nous fait deviner des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, et on y trouve visiblement un archevêque. Je me trompe peut-être en pensant que c'est celui d'Afrique du Sud. Bon, voilà. On retourne, on voit un chanteur. Je me suis demandé si c'était pas Sting.
Non.
Non, c'était...
Il suffit de regarder son nom.
Ah ah.
Bowie.
Ah ben oui, Bowie, c'est vrai. Voilà, je me rappelais plus du nom. Donc Bowie, et ainsi de suite, et un certain nombre de mécènes. Et ces gens sont là à une réunion dont visiblement ils ne connaissent pas le sujet, on va leur demander quelque chose. Et en fait, ce qu'on leur propose dans ce Rainbow Warriors, les combattants de l'arc-en-ciel, c'est tout simplement de faire un coup d'État dans un pays africain qui est une dictature brutale, écrasant le peuple, sexiste et homophobe. Petit extrait. Le général qui est supposé diriger ses 10 000 mercenaires, ça renvoie, j'imagine, à l'Anabas aussi, peut-être, hein, les 10 000.
À l'Anabas, ça renvoie à Forsyth et aux chiens de guerre, ça renvoie à Bob Denard et ses tentatives de coup d'État aussi.
Alors, voyons le passage. Geoff a du mal à ne pas se laisser prendre au jeu, alors il raille. Et qui met les soldats que vous ne payez pas à disposition Blackwater ? Ce sont tous des volontaires, répond Coffin. Nous n'aurons effectivement que l'intendance à prendre en charge. Peu, mais de bonne qualité eux aussi, c'est ça ? C'est le dernier des soviets qui répond. Je dirais pas ça. Nous nous sommes limités à 10 000. Limités ? Vous voulez dire que vous avez décoté plus de 10 000 volontaires pour envahir bénévolement le trou du cul de l'Afrique ? Beaucoup plus. La sélection a été drastique. Nom de Dieu, je lève une main à l'adresse de l'archevêque, excusez-moi monseigneur. D'accord, vous jouissez tous d'une notoriété, des relations qui facilitent les choses. Mais 10 000 ? Plus de 10 000 ? Je suis désolé de vous le dire, vous vous êtes forcément fait noyauter par quelqu'un qui n'a pas du tout le même objectif que vous et qui vous ne lâchera jamais les rênes. Vous les avez trouvés où, vos volontaires ? À la qualité du silence, Geoff sait qu'il vient de poser la question qu'on attend de lui depuis, eh bien, depuis pratiquement le premier échange, quand le David Diane a mentionné cette fameuse armée de bénévoles. Il est certain que Coffin va répondre en personne. Ce sont presque tous des LGBT, lâche Coffin. LGBT. Maintenant, Geoff sait ce que cela signifie. Lesbienne, gay, bi-trans, même s'il dirait plutôt gouine, pédé, avoilé à vapeur et trans, parce qu'il manque un petit peu de vocabulaire sur le sujet. Et ce n'est pas qu'il soit homophobe ou intolérant. C'est juste qu'il aime bien appeler un chat et que... Non, merde, vous êtes sérieux ? Une nouvelle fois, toutes les paires d'yeux sont braquées sur lui. Certaines sont sous tension, d'autres dures. La réponse survient dans son dos. Oui, Geoff, c'est très sérieux. 38 des 53 États africains pénalisent l'homosexualité et pratiquent une discrimination violente à l'égard des LGBT. En sus de l'ostracisme ordinaire, le viol, la torture, la lapidation, la condamnation à mort sont choses fréquentes. Alors, même si ce n'est qu'un symbole, gouvernement que cette armée de tafiole va renverser, le pire de tous, et ça va faire un sacré barouf. Joffre n'en croit pas ses oreilles. Il s'appuie des deux mains sur la tablette et demande par-dessous son bras. « Dis-moi, Joseph, c'est bien le colonel Varansky de la DIA que j'entends là ?»« Colonel Varansky en retraite officielle depuis le regard sa montre, bientôt 18h. » Joffre se retourne. « Ils t'ont viré, toi aussi ?» Varansky hausse les épaules, même pas. « J'ai fait mon taf et j'ai décliné l'invitation à le prolonger. » Et aussitôt, appelé son vieil ami Joffre pour l'embarquer dans une connerie qu'il devait préparer depuis des mois et des mois, ou peut-être pas tant que ça. Joffre pousse le bouton du micro et s'adresse à Coffin. « Sans discrétion, monsieur, cette idée lumineuse ne serait-elle pas venue le 12 novembre 2010, juste après certains votes à l'ONU ?» Coffin sourit. « Vous me connaissez bien, Geoffrey. Et vous avez contacté Joseph quand ?»« Quand nous avons été sûrs de ce que nous voulions, des moyens financiers dont nous disposions. Il y a 3 mois. Et c'est celui qui a validé les recrutements ?» Coffin hoche la tête. Joffre poursuit. « En 3 mois, donc ?» Puis-je me permettre de vous dire, si vous m'avez habitué à une certaine promptitude de décision et de mise en application, vous battez ici un record d'inconséquence qui vaut son pesant de mercenaires bénévoles. Je vous souhaite bonne chance, vous allez devoir trouver une autre poire pour aller faire massacrer au Montbézy. Il relâche le bouton du micro, s'écarte de la tablette, lance un regard affligé à Varansky, se dirige vers les portes dans un silence de mort. Il hésite sur la première marche, il s'arrête sur la deuxième et se retourne pour toiser toute l'assemblée, jeter un regard cette fois noir à Varansky et lever aux yeux pour... au ciel pour Coffin. Putain de bordel de merde, joue-t-il. 10 000 tafioles, hein. Le silence est tel que tout le monde l'entend clairement. D'accord, de toute façon, vous ne trouverez personne d'autre. Il redescend les marches, rejoint le pupitre, appuie sur le bouton du micro. Bon, à quel délire dois-je encore m'entendre ? Voilà.
Là, ça se voit, comme les yeux au milieu du visage, que chaque nom est un jeu de mots. Mais il faut savoir que dans tous les romans de Yale, la plupart des noms sont des jeux de mots. Il vint, par exemple, dans la Bohème et il est livré. C'est aussi simple que ça. Il vint. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Il vint. Naïs, quand on le prononce simplement à l'anglaise, c'est nice. Ce qui est un très joli nom pour une tueuse en série. Et en fait, la question que pose Geoff sur la date à laquelle Coffin a eu l'idée, c'est très simple. C'est que Yale a eu l'idée de ce roman. On en a parlé pendant 3 jours. Ce jour-là, le jour de cette décision inique de la Cour des droits de l'homme de l'ONU.
Et donc un sujet, là aussi, pas habituel, original. Il y a de l'humour, d'abord, il y a plein d'humour. Il y a des gens décalés dans cette affaire. On voit le général qui se retrouve avec une armée qui n'était pas tout à fait celle qu'il avait prévue. Calémo, pas tout à fait politiquement correct. Hein. Ça pourrait même être homophobe. Mais bon, visiblement, pour lui, bon, il va faire le job. Et puis, on a aussi une interrogation qui va venir, parce que chez Yale, c'est toujours plus subtil qu'un roman, je dirais, moraliste, au bon ou au mauvais sens du terme. C'est tout simplement que très vite, on va se poser des questions, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, y compris si on a des valeurs. On se rend compte que la réalité, parfois, est compliquée, que même avec de bonnes intentions, et même avec des alliés dans le pays, envahir de l'extérieur avec une majorité de gens qui ne sont pas originaires du pays, c'est quand même très compliqué, surtout en Afrique, avec l'histoire du colonialisme. Voilà, un beau roman, un roman d'action, un roman surprenant, un roman provocateur, un roman sur lequel, et je peux en témoigner, Yale s'est documenté, parce que quand Yale prépare un bouquin, il se documente.
Et énormément des personnages, en fait, sont réels, sont des gens qu'il a rencontrés, qu'il a côtoyés.
Ou des mixtes, et par exemple, un des personnages est visiblement un mix, entre autres, d'un personnage dont je lui ai parlé, qui est une relation. Et il me disait, est-ce que je peux vraiment présenter une militaire transgenre qui est capable de tuer les gens, qui est efficace, qui est dure, qui est... parce que ce n'est pas des gens un peu faibles et tout. Il ne l'a pas dit comme ça, parce qu'il ne le pensait pas comme ça. Et je lui dis non, c'est comme tous les gens. Il y en a des doux et il y en a des violents. C'était ça.
C'était ce qu'il voulait absolument faire avec Rainbow. C'est montrer que quelle que soit notre orientation sexuelle, nous sommes juste des humains. Et donc, il y a des cons, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des durs, il y a des doux, il y a de tout.
Bastard, le dernier, et après, on dira quelques mots. Je vais aller très vite, je ne peux pas le lire comme je voulais le faire, parce qu'on a pris beaucoup de temps, voilà, déjà. On avait tellement de choses à dire, on avait envie de dire, et je voulais surtout que ce moment... pour évoquer Yale, soit aussi, et peut-être avant tout, un moment de lecture, c'est-à-dire un moment où on parle des œuvres. On vous donne, j'espère, je vois des gens dans la salle qui connaissent très bien, peut-être tous les bouquins d'Ayerdal, mais Voilà, j'espère que j'ai convaincu un certain nombre d'entre vous, entre autres la plus jeune génération, de lire absolument les bouquins. Bastards, c'est un, là aussi un très très beau livre, très différent. C'est aussi un hommage cette fois-ci à la littérature, mais que je trouve qu'Ayerda l'a réussi parce que cet hommage à la littérature, et entre autres à un écrivain précis, c'est un hommage qui n'est pas, comme souvent en lead-gen, comme on dit, en mainstream, un hommage à vide, un hommage creux, un hommage stérile, et où la littérature n'a d'autre objet qu'elle-même, alors que là, elle s'adresse à nous avec d'autres objets. Je ne sais pas si Sarah partage mon
oui,
point de vue.
Oui. Alors, ça a été la guerre, et Marion s'en souvient aussi bien que moi. Au fur et à mesure que nous lisions l'une et l'autre les différents épisodes de Bastards, nous répétions systématiquement à Yael, c'est ton roman le plus littéraire, le travail que tu es en train de faire est extraordinaire, etc. Et à chaque fois, Yael est là, mais non, pas du tout, c'est nul, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça va pas être un bon bouquin, etc., etc. Et c'est vraiment quand des chroniqueurs, des critiques, après la sortie, lui ont répété en fait exactement ce que nous lui disions depuis des mois, qu'il s'en est rendu compte. Il avait en fait écrit exactement ce qu'il avait envie d'écrire. Un roman sur la littérature, sur les auteurs. Un hommage à Colum McCann, pour qui il avait une admiration folle. Et vraiment un roman sur l'écrivain. Et en même temps, une déclaration d'amour à une vieille dame qu'il aimait beaucoup.
Pour conclure, j'aimerais que Stéphane nous parle d'un autre aspect de l'auteur. J'en dirai un petit mot avant. Souvenir. Ça peut faire rire aussi parce que c'est important aussi qu'il savait nous faire sourire, nous faire rire. Il y a un moment où avec des amis dont certains sont dans la salle, Jean-Claude Dugnac et autres, je me prépare à lancer une revue de science-fiction, et Yael, qui était le jeune prodige de cette littérature, évidemment je l'approche pour lui demander de nous soutenir, et j'ai gardé la lettre. Yael m'envoie une lettre où il m'envoie balader avec le ton parfois qu'il pouvait avoir quand il était énervé par quelque chose, sur le thème des « il y a déjà une autre vue, pourquoi créer une nouvelle, etc. etc. » Enfin bref, voilà, valait mieux travailler avec l'autre, c'est ça qu'a tué la SF française, donc très, très remonté. C'est tout, hein, c'est la vie, on fait notre chemin, on fait notre vue. Et puis Yael regarde, il voit le numéro 1, un peu... pas très bien réussi techniquement. Il voit le numéro 2, là, qui commence à marcher, un dossier d'Anne Simmons qui tient la route. Et visiblement, il aime bien la revue. Et je lui fais un petit mot avec l'aide de Jean-Claude Dugnac. Et on lui dit, on voudrait un auteur français maintenant, après un Britannique, Banks, excusez du peu, après un Américain, d'Anne Simmons. On voudrait un Français, et celui qu'on veut, pour montrer ce qu'on veut faire, c'est Ayerdal. Alors est-ce que... Et il a répondu oui. Avec une grande générosité, on attendait une nouvelle de 30 ou 40 000. On a une novella de 90 à 100 000 signes, longue, qui est maintenant une des nouvelles importantes. C'est une nouvelle magnifique, la troisième lame, si ma mémoire est bonne. Et voilà, c'est ça la générosité d'Yael, y compris la capacité, quand il dit quelque chose, de se dire oh, peut-être que là, je n'ai pas eu raison, alors je change, et je fais même plus que je n'aurais sans doute fait au départ. Stéphane Plateau, sa générosité, c'est surtout à l'aide à la publication des auteurs, comment ils pouvaient accueillir les écrivains, leur donner confiance et les aider à porter le texte.
Alors, je débarque comme ça chez un écrivain connu, dont je n'ai encore lu aucun texte, avec mon premier manuscrit sur son ordinateur.
Qui lui avait été envoyé par un ami.
Voilà. Il le lit, il m'invite à manger. Enfin, Sarah et Yael m'invitent à manger. Je passe la porte, je découvre leur antre. Et je tombe sur deux personnes terriblement affables et souriantes qui me demandent de raconter qui je suis, de parler de moi. Et on découvre bien vite pas mal de passions communes. C'était vraiment avec une générosité débordante, avec un grand sourire, les personnes avec Sarah qui m'ont vraiment accueilli dans le milieu littéraire. Donc inutile de dire que je les ai assaillis de questions sur la façon dont ça marchait, sur les salons, et qu'ils ont toujours répondu avec énormément de patience. Je sais que la deuxième fois où je suis venu dormir, je suis resté dormir à la maison la deuxième fois, et le matin, donc je dormais dans ce qui était le bureau d'Yael. Le matin, j'ai été réveillé par, je crois que c'était un passage de rock progressif assez doux, je ne sais plus si c'était un Genesis ou un King Crimson, très doux, avec un Yael tout souriant, avec le petit déjeuner. Waouh! Il m'a vraiment... C'est mon ami le plus récent et le plus vite perdu. mais il m'a profondément marqué en 3 années. Il m'a transmis un feu, et pas seulement à moi, puisqu'il a aussi soutenu et parrainé, aidé d'autres écrivains, d'autres jeunes écrivains. Il a toujours énormément donné, et je ne pourrais jamais lui rendre ce qu'il m'a donné. Je pourrais peut-être un jour le rendre aussi en aval à d'autres, j'espère.
Tu le rendras en écrivant et en partageant.
Voilà, et puis il me reste encore des années pour, parce que j'ai peu de temps malheureusement pour lire, parce que c'est du temps qui passe à l'écriture, il me reste des années pour continuer à découvrir son œuvre, à découvrir sa voix, et c'est ça qui est beau dans cette amitié, c'est que je vais pouvoir continuer à l'entendre et à découvrir et à apprendre des choses à son sujet. Et puis, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a décuplé cette envie de parler des injustices, de parler des marginaux, des minorités, de parler de tout ce qui est, oui, de tout ce qui est cruel et injuste dans le monde. On avait un débat, lui et moi. La fantasy peut-elle parler du monde comme la science-fiction peut le faire ? Il était sceptique au début. On a eu plusieurs échanges sur le sujet. On se retrouvait avec aussi on s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses similaires, que ce soit notre look de mousquetaire, en tout cas le sien dans la dernière période de sa vie, que ce soit ce passé de travailleur social et cette envie-là. Et donc maintenant, s'il y a bien, oui, quelque chose qu'on peut continuer à faire, c'est de montrer que, oui, aussi en fantasy, on peut interroger la société, interroger la nature humaine, interroger le pouvoir, interroger l'injustice. Et voilà, et j'espère qu'on sera nombreux à le faire.
Marion, il paraît qu'il y a des choses qui se préparent.
Oui, ben, moi, je voudrais... En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre trop pour lire Heyerdahl. D'abord parce que vous allez vous faire plaisir. Moi, j'ai lu plusieurs fois l'œuvre intégrale d'Heyerdahl parce qu'on l'a édité plusieurs fois. Et d'ailleurs, on était en train d'achever le plan de publication qui s'achevait par L'Istrion et Sexomorphose et reprendre tous les titres de son fond. Et à chaque fois, donc, chaque 10 ans, j'ai été amenée à tout relire. Et c'est très rare, mais ça a été un plaisir supérieur à chaque fois. Parce que, comme je vous le dis, le vin vieillit bien. Bah, les livres de Yale aussi, les livres d'un écrivain qui est en avance sur son époque et qui est si riche, si prolifique et si peu enfermable dans une seule, dans une chose, dans une case. Donc, moi, en tant qu'éditrice, ce que je voudrais dire, c'est que tous ceux qui n'ont pas lu tout Heyerdahl, vous allez passer un été formidable. Parce que vous allez pouvoir lire tout Heyerdahl, d'abord. Deuxièmement, si vous n'avez pas le temps de le passer cet été, ben vous pourrez les étés qui viennent, parce qu'on va rééditer au fur et à mesure du temps et des épuisements. On va retravailler le fond d'Heyerdahl en faisant des éditions intégrales sur les 5 prochaines années, par cycle, qui vont beaucoup éclairer en plus justement le cyclomaocrate, les thrillers. Et donc ce sera on va fournir les formats qui vous rendront le fait de lire l'œuvre complète d'Heyerdahl de A à Z de plus en plus agréable physiquement, mais le plaisir que vous en retirez, bah d'ailleurs je l'annonce, hein, ceux qui sont pas contents, je leur rembourse les bouquins, voilà, c'est pas compliqué. Et ceux qui me disent j'ai passé mon été et j'aurais mieux fait de faire autre chose, je leur rembourse double. Je pense qu'il est temps de lire Heyerdahl aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'il est au maximum de son art, de sa force. D'ailleurs, il était entre 3 grands projets, dont cette utopie heureuse qui était quelque chose dont on parlait beaucoup, parce qu'évidemment, on parlait beaucoup du monde et de comment il allait, et de si c'était écrit qu'il allait toujours de plus en plus mal et qu'on perdrait toujours à la fin. Donc, voilà, il y avait un espèce de désir. Donc, il était au sommet de sa liberté artistique, de son art d'écrivain. Et de ce point de vue-là, cette disparition est d'une grande injustice, et la responsabilité que ça nous donne, à nous tous, et vraiment, moi, je la prends comme telle, et je pense qu'on la prend tous comme telle, c'est d'écrire pour ceux qui écrivent, de lire pour ceux qui lisent, et de ne pas traîner, parce que le monde a vraiment besoin de ses livres aujourd'hui. Il était dans ce sentiment d'urgence, à Heyerdahl, de l'écrivain qui ne doit pas, etc., et du fait que chacun dans son domaine, qu'on soit plombier ou écrivain, on avait du boulot en ce moment. Qu'on soit parent ou enfant, on avait du boulot en tant qu'humain. Et là, notre boulot, c'est de lire ces livres maintenant, parce que si on les lit que dans 10 ans, il sera peut-être trop tard, et on se dira, il est trop tard. Moi, je peux vous dire que ça fait 20 ans que je me dis, il faudrait que tout le monde ait lu les livres d'Heyerdahl et que je publie des livres pour ça, parce que vraiment, le monde irait mieux. Irait mieux aussi parce que c'est des belles choses. C'est la première chose qu'il faut dire. Et donc voilà, faut pas tarder.
En tant qu'éditrice de Yale depuis maintenant presque 30 ans, donc il n'est plus là, c'est con, mais on travaille comme s'il l'était. D'ailleurs, on avait commencé le plan de publication avec lui, de façon, je crois, assez lucide, hein, puisque le plan de publication était sur plusieurs années et il savait qu'il était bien malade. On ne va pas s'arrêter parce que c'est la mission, mais aussi parce qu'il y a encore des textes à publier. Alors, il y a des nouveaux livres. Donc, l'écrivain Heyerdahl, il est toujours là, quoi. Si vous voulez, nous, on travaille avec Heyerdahl comme s'il était là. C'est seulement beaucoup plus désagréable maintenant qu'on ne peut pas lui téléphoner tous les jours et profiter de lui, quoi. Mais les livres, ils sont là, pareil. Et en particulier, ce qui est là, c'est le prochain qu'on va sortir, qui est inédit et qui est extraordinaire, puisque c'est l'intégrale de ses nouvelles et que non seulement elle rassemble toutes les nouvelles dont on a, alors qu'était, publié en 82, donc hein, c'est, non, 80, quelle année tu nous as dit pour, 87, vous voyez, donc les premières nouvelles, Yale ne se considérait pas comme novelliste, de la même façon qu'il pensait qu'il faisait pas de bonne description, mais des fois il se trompait, en tout cas sur lui-même. On s'aperçoit que c'est un très grand novelliste. C'est vrai qu'il n'a pas été prolifique et qu'il y est allé à chaque fois avec beaucoup de précautions, sans doute parce qu'il admirait ses copains novellistes et bons novellistes.
Entre autres, Jean-Claude Duniac, qu'il écrit.
Entre autres, Jean-Claude Duniac. Et je sais, Pierre aussi, dont il avait admiré quelques nouvelles, alors que c'était un grand romancier et qu'il ne l'attendait pas forcément là. Et donc, il minimisait toujours son talent. En fait, ses nouvelles sont absolument extraordinaires. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles viennent boucher pour quand vous aurez tout lu, et ceux qui ont déjà tout lu, elles viennent boucher des questions qu'on a justement sur l'homéocratie, sur tel personnage, sur une problématique politique, ou une... Elles viennent compléter l'œuvre. Donc ça sortira en novembre, et puis ensuite on rassemblera les aphorismes bohèmes, qui sont des espèces de leçons de liberté pour le monde entier, et dont on voudrait faire un petit livre pas cher, parce que justement, ça doit être une graine à planter largement dans le monde. On publiera aussi, je pense, Quack, c'est-à-dire le dernier volume de Sibione qu'il a laissé inachevé et que Sarah, quand on pourra, finira peut-être avec Jean-Claude Duniac. Et voilà. Donc on continue à publier l'œuvre d'Heyerdahl, et franchement, c'est maintenant qu'il faut la lire, parce que c'est maintenant qu'elle nous fait tant de bien et qu'elle nous est si utile. Et je vois Jacques Baudou hocher la tête. Tu le dis depuis 25 ans, mais là, ça devient urgent, hein, c'est vrai.
On va donner le dernier mot, bien sûr, à Sarah Doc. Sarah, à Heyerdahl.
Je veux dire deux choses importantes. Marc Soulier est mort. Heyerdahl est éternel. Il est tellement éternel, d'ailleurs, et c'est la deuxième chose, que le grand écrivain américain Norman Spinrad, avec l'aide d'un astronome français, a réussi à donner le nom d'Heyerdahl à une exoplanète.
Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi.